Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement.
Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Il faut changer de maîtresse, mon Joe. Mais moi, je change pas de Maître Mongeon. Bonjour, Sophie.
Hey, bon matin, accueilli avec une petite belle petite toune. Wow, merci, LP.
Ben, écoute, le jour de l'an, il est passé, mais quand même, pourquoi pas. Alors, Maître Mongeon, tu nous dis souvent qu'il y a des avocats partout.
Oui.
Et c'est de plus en plus le cas, là. Il y a de plus en plus d'avocats partout, là. Dans nos pages sportives, il y a des avocats partout.
Mais ce qu'on nous enseigne à l'université, c'est que le droit mène à beaucoup de choses. Donc, des fois, on se rend compte qu'il y a des avocats qui exercent des métiers que vous ne pensiez même pas qu'ils étaient avocats. Et là, avec la nomination du nouveau directeur, ben, à ce moment-là, on se rend compte que lui, il était avocat à Boston en 1996.
Est-ce qu'il faut dire Maître Hughes?
Ben, on pourrait, parce que j'ai pas vérifié. Parce que dans le fond, là, la façon que ça procède, c'est que tu fais ton droit à l'université. Là, tu as un bac en droit. Mais pour la suite, pour porter le terme maître, faut que tu sois membre d'un barreau. Et lui, si j'ai bien vu, je ne sais pas s'il fait encore partie du barreau du Massachusetts, mais il était là depuis 1996. Mais c'est pas le seul qui est avocat, qui est dans le domaine du droit du sport actuellement. Là, on pense à France-Marguerite Bélanger.
Oui, France-Marguerite Bélanger, effectivement. Sinon, Julien Brisebois, le DG du Lightning, mais aussi le coach, John Cooper. Ça, un coach qui a été avocat, c'est assez inhabituel, mais c'est quand même le double récipiendaire d'une Coupe Stanley là, dans les deux dernières années.
Oui, ça fait changement des nominations qui étaient souvent des athlètes qui avaient passé, qui avaient exercé le sport. Là, maintenant, on se rend compte qu'avec la complexité, nous autres, on rend tout le temps ça complexe, donc les conventions collectives, les petits écrits en bas, les affaires comme ça, ça fait en sorte que des postes de direction, maintenant, il faut avoir une certaine logique juridique qui s'installe. Alors, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'avocats qui s'installent. Et là, dans le fond, j'ai fait une petite vérification pour le fun, puis Julien Brisebois et France-Marguerite Bélanger sont encore membre du Barreau du Québec. Okay. Donc, si vous voulez, ouais, fait que si vous allez sur le site du Barreau du Québec, une place qui s'appelle « Bottin des avocats », vous rentrez le nom de la personne, puis vous allez voir, vous avez leurs coordonnées, leurs dates d'admission au barreau. Ici, ils sont encore membres du barreau. Donc, Julien Brisebois est encore membre du barreau, barreau 2000, et France-Marguerite Bélanger aussi. Fait qu'en principe, on pourrait les appeler maîtres.
Et c'est très intéressant. Je l'ai reçu la semaine passée, France-Marguerite Bélanger. J'aurais dû dire Maître Marguerite Bélanger. J'étais pas au courant de l'appellation là, et des conditions. Et Maître Brisebois, éventuellement, là, on tente de lui parler. Je pense qu'on fait une demande par mois là, pour Julien Brisebois. Prochaine fois, promis, je vais l'appeler Maître Brisebois.
Ben, c'est ça, sur le barreau du Québec, il est encore inscrit comme avocat. Puis on voit bien que son employeur, c'est le Tampa Bay Lightning. Okay. Donc, c'est intéressant que tout de même.
Est-ce que Catherine Reich est toujours aussi dans la liste?
Catherine Reich, excuse-moi.
Ouais. Est-ce que, non, oui?
Non, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Elle, j'ai fait des vérifications. Elle vient de l'Université de Sherbrooke, donc depuis 2015. Et puis, j'ai fait une vérification, puis elle n'est pas inscrite sur le site du barreau du Québec.
Donc, on ne peut pas dire Maître Reich.
Oui, on ne peut pas l'appeler Maître Reich, à moins qu'elle soit inscrite à un autre barreau dans un autre État, là, okay. Probablement aux États-Unis. Ou peut-être au Minnesota où elle exerce actuellement. Là.
Mais quand tu fais des jobs comme ça, là, comme DG, comme vice-président ou président dans une équipe sportive, à quoi ça te sert d'avoir ton nom inscrit au barreau?
Ben, ça te permet de signer Maître Sophie Mongeon.
À part ça, à part le titre, il vient avec quoi?
Ben, il y a beaucoup de monde qui, une fois qu'ils n'exercent pas vraiment en droit, qui ne font pas du litige devant les tribunaux, ouais, vont abandonner leur allégeance ou leur inscription auprès du barreau du Québec. Il y a des professeurs qui vont le faire. C'est noble de le garder. Ça te permet d'exercer puis avoir une certaine protection là, par ton association de responsabilité professionnelle. Mais je pense que c'est surtout pour la noblesse de la chose.
OK, parfait. Je trouve ça toujours très noble, d'ailleurs, t'accueillir avec le terme maître. Maître Sophie.
C'est un bon terme. Oui. Alors, avant, la seule raison qu'on peut le porter, c'est plutôt, c'est, c'est plutôt de plusieurs années, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire des maîtrises qui ne pourront pas porter le nom maître. Comme quand tu fais un doctorat, tu ne peux pas vraiment porter le nom de docteur, qui est à l'exclusivité des médecins.
OK. Novak Djokovic, une chance que les moyens de transport existent, parce qu'il aurait fallu qu'il nage, là.
Oui, effectivement. Donc, on, c'est pas un secret de Polichinelle, on en a parlé en long et en large. Là, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que dans d'autres pays, il ne pourra pas concourir. Effectivement, là, la France, elle avait dit au début, oui, pas de souci, on va créer des bulles sanitaires. Donc, ceux qui sont pas vaccinés, les athlètes professionnels pourront participer. Mais là, finalement, depuis la mise en place du passeport vaccinal obligatoire en fin de semaine en France, là, ça a été clairement dit, le gouvernement l'a dit que Djokovic ne pourrait pas concourir s'il n'était pas vacciné. Fait que ça, c'est une autre chose. Et l'Espagne a commencé à emboîter le pas. Le problème, c'est que il y a une maison en Espagne, lui.
Ben oui.
Oui. Donc, là, ça, c'est mi-figue, mi-raisin. Les commentaires qui sont sortis là, du premier ministre Pedro Sanchez sont mi-figue, mi-raisin. Il est prudent dans ce qu'il dit. Il dit tout sportif devra respecter les règles sanitaires. Après ça, on a dit un athlète d'élite devrait donner l'exemple, mais c'est pas clair encore s'il va avoir une vaccination obligatoire.
En même temps, il peut aller arroser ses plantes, mais peut-être pas aller jouer, là. C'est ça. C'est parce que tu peux pas priver un individu de son domicile, là.
Non. Bon, en principe, non. C'est sûr qu'on connaît pas toutes les règles d'entrée là, de l'Espagne là, puis toute leur politique au niveau sanitaire. Mais effectivement, là, il y a des grandes chances qu'il puisse rentrer dans son pays, mais qu'il ne puisse pas concourir dans des activités quelconques. Là, c'est là qu'on voit hein, que le politique puis le juridique, c'est quand même intimement lié.
Oui,
hein.
Oui. D'ailleurs, ça, c'est un sujet sur lequel j'avais tellement hâte de t'entendre. Là, dans nos journaux ce matin, on apprend que les athlètes et les journalistes sont incités à laisser leur téléphone à la maison par le Comité olympique américain. Je sais que nos collègues et amis là, des médias qui s'en vont à Beijing vont se faire prêter un téléphone là-bas pour protéger contre le cyberespionnage. Et moi, je me disais, ben leur téléphone, garde, il reste dans la valise et puis il en utilise un autre. Mais là, on parle de le laisser à la maison tout simplement, là.
Oui, oui. Des fois, je le dis souvent, hein, Big Brother is everywhere. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais un accidenté de la route qui, effectivement, les enquêteurs sont allés chercher son registre de téléphone. Donc, ils savaient exactement quel tour avait sonné, à quel moment, dans quelle région il était. On se rend pas compte comment notre téléphone peut dégager des informations. Et là, les comités olympiques américains, Canadiens et Grande-Bretagne ont emboîté le pas et ont dit, écoutez, laissez vos affaires chez vous parce qu'il y a des risques, justement, que vous soyez infectés par des logiciels malveillants, mais c'est surtout parce qu'il y a des risques d'être surveillance. Et là, je suis tombée sur un article de New York Post qui dit ceci, que le comité d'organisation de la Chine n'a pas nié que les données seraient colligées, mais ils ont confirmé que ça ne serait pas utilisé à de mauvais usages, ouais. À moins que ça soit des informations qui soient obligatoires.
Encore une fois, on parle ici de faire confiance à la Chine.
Bien, c'est ça. Puis en plus, que ce qu'on constate, c'est que une grande majorité des commanditaires des Jeux olympiques sont des compagnies de télécommunications.
Effectivement, ben c'est un peu l'hypocrisie du monde dans lequel on vit. Là. On dénonce la Chine, sauf que quand on ouvre nos garde-robes à la maison, quand on ouvre les tiroirs, tout ce qu'on fait vient de là.
Ben, t'as bien raison.
La dette américaine et chinoise,
c'est... Ouais, t'as bien raison.
C'est un dossier complexe, mais quand on regarde les Olympiques présentement, et je suis certain que dans la prochaine semaine, tu vas avoir ça dans tes dossiers là, de nouvelles juridiques, on a de nos journalistes là-bas, dont la conjointe de Martin Leclerc, qui est rédactrice en chef des pages sport de Radio-Canada, elle est incarcérée dans un motel parce que on a décidé là-bas d'utiliser des tests tellement sensibles que même si t'es guéri de la COVID et plus contagieux depuis un bout, mais que t'as des petites cellules mortes qui montrent que bon, t'as de la COVID, ben une fois sur deux, tu testes positif. Mais le problème, c'est que ça prend deux tests négatifs pour sortir de l'isolement. Fait qu'on la garde depuis plusieurs jours dans un motel miteux, enfermé, là, sans pouvoir faire son travail et sortir. Et ça se pourrait que les athlètes vivent la même chose. Ça devient un avantage pour les Chinois qui n'ont pas à voyager et qui sont dans la politique COVID-0 de la Chine, donc dans de grandes restrictions sanitaires comme il n'y a pas partout, nulle part sur la Terre. Là. Alors, ça donne un avantage indu aux athlètes chinois parce qu'on risque de voir des athlètes du monde entier être enfermés, là.
Ben oui, effectivement, j'ai écouté la chronique ce matin de Martin Leclerc à ce sujet-là, puis j'étais contente de l'entendre. Mais effectivement, là, tu sais, est-ce que c'est on use de stratégie? Je le sais pas, mais moi j'ai l'impression d'un œil de néophyte. T'sais, moi, je suis pas une analyste sportive. J'ai l'impression que avec toutes les politiques, les directives, les règlements, qu'en bout de ligne, les résultats de ces Jeux Olympiques-là sont pas représentatifs vraiment de la qualité des athlètes, là. Donc, il va y avoir des chanceux qui vont peut-être passer entre, mais ça sera pas vraiment les vrais athlètes qui pourront être décorés dans leur sport, là.
Pour démontrer l'utilité du tribunal du sport, tu as une histoire à nous conter.
Bien, j'ai deux choses à vous conter. Donc, rapidement, hier, il y a eu un communiqué de presse qui a été rendu par le tribunal arbitral du sport, là, le fameux tribunal qui juge tous les problèmes de dopage, les Jeux olympiques, etc. Ils se sont installés maintenant au Beijing Continental Grand Hotel. Donc, ils ont créé deux tribunaux sur pied en Chine en cas de litige. Deux sortes de litiges. Il y a deux chambres là, qui ont été créées. La chambre antidopage. Donc, ça, c'est la chambre préférée à Gilbert. Là. Peut-être qu'on va voir des belles excuses encore de Kiss Cocaine Defense, là, s'il y a des tests positifs.
Oh oui. Oh oui, qu'est-ce qu'on gagne de défense? Je m'en souviens de ça.
Mais c'est ça. Donc, on va avoir il va avoir une chambre qui va être attitrée pour entendre d'urgence tout ce qui est antidopage et un autre là, pour toutes les résolutions de litiges là, qui sont soumises là, avant puis pendant les Jeux. Là. Donc, ils se sont déplacés en Chine. Puis, ce qu'on constate, là, c'est que dans les arbitres, il n'y a aucun Canadien, ni dans une chambre, ni dans l'autre. Alors, ça, j'avais noté ça et on va voir ce qu'il y en est. Et si jamais un athlète est mal pris, il y a une équipe d'avocats là, qui a été constituée par l'Association des avocats de Beijing et la commission d'arbitrage qui vont offrir pro bono aux athlètes des conseils juridiques par une équipe d'avocats chinois.
Parfait, ça pro bono. Moi aussi, j'aime ça, YouTube. Et en terminant, l'autre histoire donc, que tu viens de nous raconter, c'est relié aux Jeux olympiques de Tokyo.
Ben c'est ça. Fait que là, on va rester très alerte parce que pendant les Jeux olympiques, on va avoir probablement des belles décisions qu'on va être sur le coup. On va vous en faire part au fur et à mesure. Puis c'est tout disponible sur le tribunal. Fait que je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui se passe, des contestations en principe si les décisions sortent en temps réel. Sinon, là, la beauté du tribunal arbitral du sport, c'est justement c'est un œil extérieur sur les associations. Vite, vite. En Tokyo 2020, coup de magnifique, il y a une Sri Lankaise qui finalement réussit à se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, c'est la première fois qu'il y avait une athlète équestre de ce pays-là qui se rendait aux Jeux olympiques. Donc, tout le monde est bien content, etc. Mais là, la Fédération équestre internationale, c'est créé depuis 1921. C'est comme le top notch. Là. C'est lui qui décide de toutes les compétitions équestres au niveau international. Ce qui est arrivé, c'est qu'avec du recul, il a annulé une compétition de saut où la Sri Lankaise avait vraiment bien réussi et ça la qualifiait enfin aux Jeux olympiques. Il n'a pas besoin de vous dire qu'elle était le héros de son pays. Là. Mais en annulant rétroactivement cette compétition-là, ben, elle pouvait plus y aller. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette dame-là et l'association équestre de Sri Lanka a fait un recours devant le tribunal arbitral du sport qui finalement a conclu que même si tu es une fédération qui a quand même beaucoup de latitude, tu peux pas faire ce que tu veux, tu n'avais pas d'affaire d'annuler rétroactivement cette compétition-là et la Sri Lankaise a pu compétitionner. Mandou et moi, je pense qu'elle a fini dernière, là, mais c'est pas grave, elle a vécu son rêve. Et elle a réussi à aller aux Jeux olympiques de façon noble.
Le sport équestre, ça a toujours été une passion pour toi, passion familiale dont tu nous as parlé souvent au fil de nos années ensemble à l'émission. Maître Mongeon, bonne semaine.
Hey, bonne semaine, à la semaine prochaine.